Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord, la seule émission qui fait parler des supporters du LOSC et du Racing Club de Lens en direct pendant une demi-heure et ce même après un derby et même quand il y a des problèmes techniques. L'émission qui avait aussi prédit le match nul entre Lens et Lille. On salue d'ailleurs Patrice Caro et Adrien Bonnereau qui avaient eu le bon résultat à votre place lundi dernier. Au sommaire, ce soir, c'était un match en deux temps qu'on a vu samedi. D'abord une première mi-temps assez lensoise, Francaise avait changé de schéma, voulu plus de pressing au milieu de terrain, ce qui a posé beaucoup de problèmes au Dog. La seconde période, elle était plus, ça va être au profit des Lillois, ils sont revenus au score et auraient même pu s'imposer sans un Samba de Gala ou un Gala de Samba au choix. Match nul et maintenant Lens continue de voir Paris et Marseille se détacher. Lille est 6e à un point de l'Europe. Quelles sont les dates importantes pour les deux clubs dans les prochaines semaines? On en parle avec nos supporters en plateau ce soir, les frères Simon et Alexandre Vienne, côté Lensois. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et puis côté Lillois, François Stock, président des Dog Lunettes. Bonsoir François.
Bonsoir.
Et on n'oublie pas Morgane Delis, plus connu sous le nom de Losisk sur TikTok, sur Twitter aussi. Sur les réseaux sociaux, bref, en général. Et puis, si vous voulez rejoindre cette équipe, vous pouvez nous envoyer un message via les réseaux sociaux et vous pouvez participer à l'émission grâce à Twitter et au hashtag COPNord. Mais avant de débattre du match, on va évidemment revenir sur ce qui s'est passé samedi au Stade Bollaert. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flo.
Dans un Stade Bollaert à guichet fermé pour le 20e match consécutif, Lensois et Lillois n'auront pas réussi à se départager. En première mi-temps, les Dogs ont le ballon, mais les sang et or se montrent les plus dangereux. Une domination concrétisée à la 41e minute de jeu. José Font inscrit un but contre son camp sur un coup franc de Fulgini. Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendent coup pour coup et c'est finalement Lille qui égalise grâce au 16e but cette saison de Jonathan David. 1-1, score final, un résultat qui n'arrange personne dans la lutte pour les places européennes.
Et d'abord un coup d'œil sur les statistiques de cette rencontre avec au final 62% de possession du ballon côté Lillois, presque le double de passes pour les Dogs. Les deux équipes qui ont à peu près tenté leur chance autant de fois, mais les Lillois qui ont cadré 6 frappes contre une seule côté Lensois, c'était au tout début de cette rencontre. Priorité donc à nos amis Lensois pour cette rencontre puisque c'est eux qui ont reçu vos tops. D'abord pour commencer Simon.
Moi mon top Brice Samba qui clairement nous fait gagner un point, donc rien d'autre à ajouter.
Qui fait l'unité je pense ce soir côté Lensois, Brice Samba qui réalise un de ses meilleurs matchs peut-être cette saison, ça porte à débat.
Un de ses très nombreux très bons matchs.
Ça faisait longtemps qu'il avait
très nombreux très bons matchs.
En tout cas on a compris donc Brice Samba qui fait l'unité derrière lui. Est-ce que pour vous il y a un flop sur ce match pour côté Lensois?
Moi c'est encore Openda, malheureusement je l'ai trouvé bon, remuant, il a beaucoup embêté la défense centrale de Lille, mais voilà, il a pas assez d'impact et il est pas assez décisif sur les matchs, donc Openda pour moi dans les flops.
L'attaque aussi pour toi Alexandre?
L'attaque aussi, ouais, Openda limite plus décevant que Sotoka qui est quand même également un petit peu en deçà, mais ouais c'est vrai qu'Openda on attend beaucoup plus de lui.
Pour vous Morgan?
Sotoka pour moi, ouais.
François?
Openda, Sotoka, l'attaque lensoise en règle générale, c'est vrai que vu la domination en première mi-temps, le peu d'occasions de but réelles est vraiment significatif de leur inefficacité actuelle.
Et on va maintenant parler des Lillois, qui pour toi a fait le meilleur match?
Moi je vais citer un remplaçant, je vais citer Zegrova qui fait une rentrée tonitruante à la 70e minute et en 20 minutes il a mis le feu à son côté à la défense lensoise, donc je crois qu'il faut le citer.
Il aurait pu même mettre le but vainqueur, mais encore une fois donc il faut saluer Brice Samba dans les cages lensoises. Morgan?
Comme je l'ai dit, top d'encouragement pour Jonathan Bamba qui était souvent cité dans les flops ces derniers temps. Je trouve qu'il fait quand même un match assez sympathique, surtout des efforts défensifs. Je dirais Jonathan Bamba.
Et pour vous?
Moi dans les tops côté Lillois c'était Bamba que j'ai bien vu en deuxième mi-temps parce qu'il était devant nous et il a été très très remuant quand même, donc vraiment Bamba dans les tops pour moi.
Alexandre?
Du coup un autre Jonathan puisqu'il a marqué, mais c'est vrai que Bamba était le meilleur Lillois, mais Jonathan David pour son but.
Et en flop, donc je peux retourner à vous, on verra après, mais un flop Lillois à votre avis?
Moi, j'ai cité deux joueurs, les deux cadres de l'équipe qui étaient un peu en dessous. José Fonte, pas seulement pour son but contre son camp, mais qui était assez lent pendant tout le match. Et
pas que pendant le match, c'est vrai que ça fait plusieurs fois cette saison qu'on pointe son manque de vitesse.
Tout à fait, et là c'était vraiment flagrant, notamment en première mi-temps. Il a eu beaucoup de mal avec Openda. Et André Gomes aussi, qui restait sur une série de performances qui était tout à fait notable. Et là, il est passé à travers son derby. Est-ce que c'est l'énervement? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce qu'il a raté c'était pas dans un bon jour, je ne sais pas, mais c'est deux joueurs qui doivent porter l'équipe du LOSC et qui n'étaient pas au rendez-vous.
Morgan. On l'avait déjà vu la semaine dernière avec André Gomes face à Brest. Mais ouais, du coup, moi je dirais José Fonte aussi. Ouais.
José Fonte qui doit aussi faire l'unanimité. Ouais, hein, il a José souffert Fonte. De la différence et de la vitesse d'Openda.
Ouais, exactement. Bah, il m'a fait un peu de peine, même parce qu'on se dit que c'est un joueur qui est un peu le joueur soldat, etc. Mais là, vraiment, on sentait qu'il était totalement dépassé. Ouais, quoi. Ouais.
S'il fallait retenir une seule chose de ce derby, ce serait quoi pour vous ?
Bah, moi, ça serait le point gagné et les deux points perdus par Lille. Enfin, vraiment, il faut être assez honnête. Pour moi, c'est vraiment le résumé. Quoi. Après, j'ai bien aimé ce que Lens a proposé. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une dynamique comme ça. Même en défense, j'ai été content de voir l'équipe ultra solidaire, même s'il n'y avait jamais eu ce genre de soucis. Mais j'ai vraiment aimé ce qu'on a proposé en première mi-temps.
Ouais, bah, je pense qu'on y reviendra après dans la suite de l'émission. Mais je pense que c'est un nul qui peut nous permettre de repartir de l'avant pour la suite. C'est
un très bon nul pour nous. Dans une bonne quinzaine de minutes. Parlons maintenant un peu de tactique. Et on va commencer par le choix de Francaise avant cette rencontre. On était loin du 5 défenseurs comme on voit d'habitude. Là, c'était plutôt un 4-2-3-1. La volonté du coach, donc, de densifier son milieu. Vous avez été surpris, je pense, comme tout le monde au moment de l'annonce de la compo.
Bah ouais, surpris parce qu'en fait, bah déjà il y avait Medina du coup qui était pas là. Normalement, c'est Aïdara qui prend sa place et Machado à gauche. Là, on voit tout de suite sur la feuille de match les 11 joueurs, il y avait 4 défenseurs. Je pense que ça a quand même permis à Fofana d'être plus libre et d'avoir plus de liberté au milieu de terrain. Et on l'a vu, pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs depuis une bonne 6-7 matchs. Donc, surpris, en même temps, ça a fonctionné. Donc,
oui, ça a posé beaucoup de problèmes au Lillois.
Hein.
Ouais. Oui, ça a posé beaucoup de problèmes parce que finalement, la pression était sur la défense et une défense qui était renouvelée. On rappelle qu'il y a quand même beaucoup d'absents dans la défense lilloise. Il y avait Ismaili qui était absent, il y avait Diakité qui était également blessé. On a perdu Thiago Diallo très rapidement dans le match. Donc,
la 13e minute de jeu, d'ailleurs, je t'interromps parce qu'on a appris ce soir que Thiago Diallo avait donc été touché. Rupture du ligament croisé qui nécessite une opération, ce qui veut dire fin de saison. Pour le défenseur portugais. Ça, pour le coup, c'est vraiment un coup dur pour la défense lilloise qui était déjà bien à la peine.
Bien sûr, donc on a vu en première mi-temps des atermoiements, des positionnements entre les deux latéraux qui expliquent finalement les difficultés qu'il a rencontrées. Et apparemment, après la mi-temps, ils ont trouvé la solution et ils sont revenus sur de meilleurs auspices en fait dans cette seconde mi-temps.
Oui, d'ailleurs, on a bien parlé de ces deux visages, de ces deux mi-temps bien différentes. S'il faut regarder les statistiques, on voit déjà qu'en première période, évidemment, plus de frappes pour les 100 et or. On voit aussi les 5 corners à 0, évidemment un avantage au score à noter retour au vestiaire. Et puis si on isole la deuxième période, et ben on voit nettement le réveil lillois. 10 frappes en 45 minutes, dont 6 cadrés, et dont effectivement ce but de Jonathan David qui vient concrétiser la domination des Dogs dans les 45 dernières minutes de la rencontre. À votre avis, qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire lillois pour qu'on voit deux visages aussi différents?
Il y a eu arcadrage forcément. Si on écoute les déclarations, on leur a demandé de jouer leur jeu, d'essayer de garder le ballon, de monter le plus rapidement. D'ailleurs, on a vu que même en première mi-temps, ils ont essayé de jouer court pour pouvoir construire et repartir de l'avant. Chevalier, les défenseurs centraux, d'ailleurs, c'est ce qui amène en partie la faute finalement du premier but, enfin du but lensois. Donc, c'est garder les valeurs et essayer de pas se démoraliser pour pouvoir justement partir de l'avant et utiliser leur jeu pour essayer de remporter le match.
Alors à noter que c'était pas Fonseca qui était sur le banc, il était suspendu, il reviendra vendredi contre Lyon. C'était Jorge Maciel, son adjoint, qui s'était présenté face à la presse après cette rencontre et qui était plutôt fier de cette seconde mi-temps de ses hommes. Écoutez.
C'est surtout un sentiment de fierté pour la deuxième mi-temps. La façon comme on a renversé le match, la tendance qui était en première mi-temps, c'était pas vraiment notre jeu. À la mi-temps, on n'a pas changé des joueurs, on n'a rien changé. C'est surtout l'attitude et le courage de faire notre jeu. Début de match, on a donné 10 minutes dans lesquelles on a perdu des ballons. Ils ont sorti en transition tout de suite. Et ça a fait des bruits au stade. Ça enthousiasme l'adversaire et ça te met dans une position de pas très confortable. On regrette le premier mi-temps, mais c'est un apprentissage. Il ne faut pas réagir, il faut anticiper. Il faut, depuis le coup d'envoi, se mettre à fond et jouer le match comme...
Alors il y a une question qui se pose, Lens jouait un match de Coupe de France en milieu de semaine que n'avait pas le LOSC. Est-ce que pour vous, cette baisse de régime en deuxième période est due à la fatigue, à l'enchaînement des rencontres?
Ouais, pour moi c'est un peu les deux. C'est vrai que quand Lille est revenu, on s'est tout de suite dit on joue beaucoup plus bas, je vais récupérer beaucoup plus de ballons. Moi je me suis dit ah oui c'est vrai, il y a Cabella dans l'équipe et en fait il faisait tourner la balle vraiment vite, ça allait à gauche, à droite, etc. Et j'ai senti aussi en effet que le milieu de terrain avait... un petit coup d'arrêt, Abdoul Samed avait l'air très fatigué, donc on n'a pas non plus un banc très très large, et donc je pense qu'on a un peu payé ça. Mais c'est les deux. Lille a mis le rythme qu'il fallait mettre. Et on a vu que sur les ailes, il y avait vraiment de la largeur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est repassé à 5. Même si on prend le but juste après, pour moi, ça nous a permis de tenir le score, d'être à 5 derrière. Donc je pense que ouais, on avait quand même pas mal de fatigue. Enfin, moi, j'ai ressenti ça.
Il y a eu
4
changements par rapport ouais. au 11 oui, de départ face à Nantes.
Je pense que plus le match avançait, plus Lens s'est dit « bon, faut tout faire pour pas le perdre ». Parce que clairement, on n'avait plus assez de jus, on n'avait plus assez de rapidité dans nos transitions, on n'arrivait pas à prendre en compte comme on le fait habituellement. Et pour nous, dans le stade, c'était, ouais, on a entre guillemets croisé les doigts jusqu'au bout pour pas prendre ce deuxième, voire ce troisième but, parce que heureusement, comme on le redit, Samba était énorme, mais on a souffert en deuxième période. Clairement, et la fatigue se fait ressentir. Et puis, on aurait gagné ce match de Coupe de France à la limite, mais là.
Vous l'avez dit, c'est ce passage à 5 hein, qui est un des tournants du match, puisque les Lillois marquent le but quasiment dans la foulée, en fait. Et c'est Franquès qui s'en était expliqué de ce choix tactique.
Ils ont mis plus de double largeur, ils ont essayé d'isoler certains joueurs pour qu'il y ait aussi des prises de vitesse, des 1 contre 1, tout en gardant quand même à l'intérieur toujours du monde. Donc c'est pour ça que... qu'à mon sens, il fallait passer à 5 pour pouvoir continuer à avancer, enfin reprendre le fait d'avancer. On a eu quelques minutes difficiles parce que même si on a cette habitude-là de jouer dans ce système, et on a mis un peu de temps à de nouveau avancer et notamment aller chercher dans les couloirs.
Alors Morgan, c'est un peu ce que disait François, en fait, c'était les Lillois ont joué, du moins essayé de jouer leur jeu en deuxième période, et c'est ça qui a fait reculer les défenseurs lensois qui jouaient quasiment à la ligne médiane pendant toute la première mi-temps.
Ouais, c'est ça, de toute façon même Lucas Chevalier l'a dit après le match, il a dit que c'était pas le LOSC en première mi-temps. C'est vrai qu'on encense un peu Lille par rapport à son jeu depuis le début de la saison, et en première mi-temps, quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? À faire des passes entre défenseurs, la remettre à Chevalier, faire des frayeurs. Quand on a vu le pressing de Lens en premier temps, on peut s'estimer heureux, je pense, de retourner au vestiaire à 1-0. Et puis voilà, tout simplement.
Ça veut dire que le point fort, le point faible de Lille, en fait, si on vient réussir à bloquer sur le terrain, ce qui est quand même pas facile, on voit que c'est un Lille qui est tout à fait affaibli. Ça peut être un match qui est révélateur pour les prochains adversaires de Lille, pour vous ?
Oui, c'est une tendance, c'est un jeu qui est très qui nécessite beaucoup d'investissement des joueurs. Il suffit qu'il y ait un ou deux joueurs qui sont un peu en dessous, on a cité les flops tout à l'heure, pour que la mécanique elle s'enraye. On l'a vu aussi beaucoup de fois cette saison où Lille a du mal à commencer ses matchs, et donc c'est plus une équipe à réaction qui a presque besoin d'être menée au score pour pouvoir ensuite dérouler son jeu, pour se lâcher complètement. Et c'était le cas lors du derby, même si lors du derby on avait une opposition qui était plus forte que au match précédent contre Brest, par exemple.
Et pour parler un peu tactique avec vous, côté Lensois, le fait que Franquès ait innové et créé quelque chose, se soit même adapté à son groupe, puisque tu l'as dit, Medina n'était pas là, est-ce que vous, ça vous rassure, comme tu l'as dit, avec un banc qui est peut-être pas le meilleur de la Ligue 1, est-ce que le fait qu'il puisse comme ça créer des choses vous rassure sur la fin de saison ?
Ben oui, parce que sa réaction après Nantes et même sa conférence de presse d'avant-match, je sais pas ce que t'en penses, mais... on avait rarement vu Franquès comme ça, à pas réussir à comprendre ce qui se passait. Ça fait énormément de matchs où on se crée beaucoup de solutions. Les équipes nous lisent de mieux en mieux. Et là, le fait qu'il tente un truc, justement, je pense que ça a dû déstabiliser limite Lille sur la première période, ce qui fait qu'on a eu une très bonne première mi-temps et qu'il reste pas campé sur ses positions. Moi, ça me rassure parce que ça veut dire qu'il se remet en question.
Ouais, même pour le groupe, moi, je trouve ça aussi important parce que je me mets aussi à la place. Enfin, on sait très bien l'importance d'un groupe et la vie du groupe, c'est important. Et je me mets aussi à la place des joueurs qui rentrent pas forcément ou qui doivent se dire. L'équipe, elle tourne pas beaucoup mieux et pourtant, je ne rentre pas plus que ça. Là, il n'a pas fait de gros changements en termes d'hommes. Mais au moins, il a montré, écoutez les gars, à tout moment, on peut quand même changer de système. Ça reste moi quand même le capitaine du navire. Et si ça ne va pas mieux, je suis en mesure de faire des changements. Donc oui, c'était intéressant. C'est rare qu'on s'adapte à une équipe. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est, encore une fois, c'était payant. Je pense qu'on n'aurait pas le même discours si à la mi-temps, il y avait 2-0 et qu'on perdait 2-0, je veux dire, et qu'on devait rechanger de système.
Alors, quel impact ça aura sur la fin de saison ? On en parle dans quelques instants. Juste avant, je voulais prendre quelques secondes pour remercier les docs d'honneur, le parquage et les forces de l'ordre, hein, puisqu'avec Théo Dorangeon qui réalise cette émission, on a pu suivre le déplacement des supporters lillois à Lens pour vivre ce derby. C'était un derby et un déplacement qui était sous très haute surveillance. À noter qu'il n'y a aucun débordement à signaler. C'est de bon augure, donc peut-être pour les prochains matchs. Le résumé de cette journée, c'est retrouvé sur notre page Instagram de FM Grand Lille. J'en profite, je fais un petit coup de pub. Alors, allez, y abonnez-vous pendant la page de pub. On se quitte quelques instants et on se retrouve juste après pour parler de la fin de saison de Lens et du LOSC. A tout de suite. On est de retour dans Cop Nord, et avant d'aborder la fin de saison pour Lille et pour Lens, on va revenir sur un dernier événement qui s'est passé samedi au Stade Bollaert, le LOSC qui a eu ce week-end un co-meilleur buteur au 21e siècle en la personne de Jonathan David. Retour sur ses 50 buts sous le maillot lillois avec Fanny Cousin.
124 matchs avec le maillot lillois et désormais 50 buts. Jonathan David est devenu ce week-end co-meilleur buteur du LOSC au 21e siècle à égalité avec Eden Hazard. Arrivé dans le Nord à l'été 2020 en provenance du club belge de la Gantoise, l'attaquant canadien a marqué près d'un tiers des buts lillois depuis un an et demi et le début de la saison 2020-2021. Et pourtant, il s'est d'abord fait plutôt discret, muet, lors de ses 14 premiers matchs en carrière avec le LOSC. L'année dernière, il avait démarré la saison en trombe avant de caler sur la fin de saison. Cette fois, le Lillois n'en finit plus de se montrer indispensable. Avec déjà 16 buts cette saison en championnat, il occupe la deuxième place du classement des buteurs de Ligue 1 à deux longueurs de Kylian Mbappé. Et Jonathan David ne compte pas s'arrêter là. Il peut devenir samedi à Toulouse seul meilleur buteur de l'histoire du LOSC au XXIe siècle.
Et avant de vous demander votre avis sur ces 50 buts de Jonathan David, peut-être on va écouter le principal intéressé.
C'est spécial parce que c'est ma manière de... Je ne l'ai pas encore battu, mais je m'approche et ce serait une manière pour moi de marquer l'histoire du club. Et c'est ça que je veux faire. Si je veux arriver à 100, je crois qu'il faut rester quand même quelques saisons de plus, c'est sûr.
C'est faisable de vous voir au-delà de l'été prochain à Lille ?
Bien sûr, je pense que tout est possible. Après, la saison est encore longue, je pense qu'on a des objectifs ici au club. Essayer de rester dans le top 5 et si on peut aller chercher le top 3. Et après, on verra qu'est-ce qui se passe.
Et à noter donc qu'avec ses 50 buts, il devient meilleur buteur au 21e siècle. Le meilleur buteur de l'histoire du LOSC, c'est Jean Barat, avec toujours 174 buts.
Il va falloir aller chercher.
Qu'il accélère un peu sur la fin de saison, Jonathan David, s'il veut rattraper ce record. David, si on se souvient bien, même à son arrivée, quand il arrive pour 25-27 millions d'euros, ses premiers matchs sont... pas facile, on ne s'attendait pas à le voir arriver aussi haut dans l'histoire du LOSC, du moins avec ses matchs marqués. Ouais, c'est mérité en fait qu'il arrive aussi haut dans certains classements.
Mais il a eu deux périodes de jeunes, entre guillemets, une effectivement à son arrivée, et puis l'année dernière, il est resté muet pendant plusieurs mois, et c'est donc d'autant plus remarquable de le voir arriver à 50 buts. Mais après tout, c'est aussi un joueur qui est très altruiste, qui est très présent sur le front de l'attaque, et qui n'arrête pas de proposer des solutions, et finalement, c'est mérité.
Alors on va maintenant parler de la fin de saison, 12 matchs avant la fin de cette Ligue 1, on est au premier tiers de la phase retour, Lens affronte Clermont ce week-end, il reste encore Rennes, Paris le 16 avril, puis Monaco la semaine suivante, sans oublier Marseille et Lorient. Vous vous attendez à quelle fin de saison pour Lens? Est-ce que vous avez quelques appréhensions?
Non.
Oula. Là, on a battu toutes les équipes du top 5.
Ouais, non, ouais.
En fait, c'est vraiment... pas pour vous deux phases différentes entre l'avant-coupe du monde et l'après-coupe du monde?
Si, pour moi, il y a deux phases. Là, en fait, pour moi, ce sera vraiment Clermont-Angers.
Ouais, mais pas pour moi.
Qui vont définir la suite. C'est soit on se remet confiance, on repart sur une bonne dynamique et on se dit, ok, on a...
Bah ouais, mais regarde, on avait dit la même chose sur 3 et Brest, il faut qu'on prenne 6 points, on les prend pas. Et finalement, ça fait plusieurs matchs où on n'est pas dedans, on n'est pas mauvais dans le contenu, mais on finit pas les actions. Et
après, ce qui est positif,
moi, je pense que pour le coup, ouais, pas, enfin, pour le coup, c'est.
Allez, la phrase. Il y a deux avis tranchés, en tout cas.
La phrase un petit peu bateau, mais un match après l'autre.
Tu vois quelle place à la fin pour Lens avec ce calendrier?
Quatrième.
Ouais. Simon,
C'est compliqué, je m'attends pas. Moi, je pense vraiment que 4 et 5, ça sera Lille et Lens, quoi qu'il arrive.
Mais attention à la 6e place, on rappelle qu'elle n'est plus européenne.
Pour moi, en fait, 4e, le point positif du calendrier, en fait, c'est qu'on a notre destin entre nos mains, parce qu'on joue que des concurrents directs, même si pour moi, Marseille et Monaco ont quand même un effectif bien plus important que nous, mais...
Un mot aussi de Lille maintenant. Donc ce week-end, il y a la réception de Lyon. Il reste Monaco et Marseille dans le top 6. Vous vous attendez à quelle fin? Est-ce que Lille peut continuer sur sa série, continuer à jouer son jeu et s'imposer chez ce genre d'équipe?
Bah nous, je pense que l'objectif, c'est au moins d'être 5e. Je pense que ça peut être pas mal, surtout essayer de profiter un peu de l'irrégularité de Rennes aussi.
Calendrier plus facile pour vous que les Lensois?
Il n'y a pas de calendrier facile. L'objectif, effectivement, si on écoute...
Il est fort.
Très, très fort. Non, mais on peut... Lille est capable de battre des grosses équipes et est capable de perdre des points contre des petites. Donc, il n'y a pas de calendrier facile en Ligue 1. C'est chaque match, effectivement, est différent de l'autre. L'objectif, c'est d'être européen. Si on entend Olivier Létang en début de saison, enfin, il disait qu'il fallait être européen toutes les saisons. Donc là, c'est la cinquième place qu'il faut aller chercher, même si c'est la petite Conference League. Je crois qu'on la prendra avec plaisir.
Alors, il reste 12 matchs donc avant la fin de cette saison. Il y a une trêve internationale dans 2 semaines. Juste une question très rapidement. Didier Deschamps qui doit annoncer dans 10 jours. Évidemment, la question s'est posée à plusieurs fois, juste par oui ou par non. Brice Samba, va-t-il être dans le groupe? C'est pas ah. doit-il être, c'est ah, va-t-il,
va-t-il,
va-t-il être.
Va-t-il être.
Va-t-il être dans la liste demandée par Deschamps.
Je vais faire comme avec Jonathan Clauss, je vais dire non.
Non. Du coup, tu espères qu'il soit là. Ouais.
Bah non. Non.
Non.
Non.
Non.
J'ai le droit de répondre, Chevalier va être dans les espoirs.
Chevalier va être dans les espoirs. Donc, on est, donc, si je comprends bien entre les lignes, pour toi, Brice Samba ne sera pas dans le groupe appelé voilà. par Didier Deschamps d'ici une dizaine de jours. Verdict donc le 16 mars. On va regarder maintenant eh ben, l'agenda, hein, de, le calendrier. Donc, ça recommence dès vendredi. D'abord, le classement. Pas de changement avec ce nul. Toujours 6 points d'écart entre les deux équipes. Lille, 6e, 45 points. Lens, 4e avec 51 unités. Au programme ce week-end. Donc, on l'a dit, ça démarre vendredi avec le LOSC qui reçoit Lyon à 21h. Les 100 et or se déplacent à Clermont dimanche à 13h. Les autres résultats avec du basket, mais aussi Valenciennes, résumé d'un week-end de sport avec Nicolas Flon.
Valenciennes n'y arrive toujours pas en Ligue 2. Face à Quevilly-Rouen, V a enchaîné un 4e match sans victoire. Le club nordiste avait pourtant rapidement pris les devants grâce à Adrian Gurbic, buteur après une minute de jeu. Valenciennes a finalement craqué en fin de match sur ce but signé Mamadi Bangré. Avec 26 points, VA est 12e du classement. Un week-end à oublier pour les clubs nordistes en Betclic Elite. Opposé à Paris, Gravelines-Dunkerque a été battu une 12e fois cette saison. Si Kenny Boynton s'est une nouvelle fois illustré avec 21 points, le BCM a souffert face au collectif parisien. Défaite 86-76, Gravelines-Dunkerque est 10e du championnat. Revers également à domicile du Portel face à Roanne. Malgré les 24 points de Nadir Ifi, meilleur marqueur de la rencontre, le SSM a chuté pour la 3e fois d'affilée, la faute notamment à un 2e carton catastrophique. Le Portel s'incline 95-84 et reste coincé en bas de tableau à la 14e place. En Ligue féminine, le SBVA a été sèchement battu par Montpellier lors de la 15e journée. Les joueuses de Villeneuve-d'Ascq s'inclinent 81-57 à domicile et chutent du podium à la 4e place.
Et c'est déjà la fin de ce Cop Nord. Merci messieurs, Simon, merci. Alexandre, Morgan
merci.
Et François pour ce débrief du derby. Merci à Théodore Anjon qui a encore réalisé des vrais merveilles ce soir à la technique. Ça s'applaudit, ça se salue. Merci à la rédaction d'RMC Sport et l'émission. Elle est à retrouver sur nos sites internet et en podcast sur Spotify. On se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine à tous. Salut.